et médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. C'est le premier week-end de cette période de fête et nous allons continuer à vous faire voyager à travers la francophonie dans la joie et la convivialité. Cette semaine, une émission très musicale, un brin festif et un programme prestigieux. C'est ce que nous vous proposons sur trois émissions pour vous accompagner au pied du sapin ou de vos vacances. Voici le sommaire de cette première édition spéciale fête de fin d'année.
La librairie francophone. Emmanuel Queyrade.
C'est une première dans la librairie francophone. L'écrivain Pierre Bordage, pilier de la science-fiction française, publie un petit livre de contes fantastiques dans la fabuleuse collection des Contes des Sages, une idée cadeau originale pour Noël. Nous serons aussi avec Lionel Trouillot depuis Haïti et avec le grand artiste plasticien Ernest Pignon-Ernest sur notre plateau pour un livre poétique en hommage à Jean Ferrat, un ouvrage régénérant cette période qui pointe la résistance et la beauté de la vie. Le groupe antillais Cassave sort un double album CD, double DVD aussi pour fêter ses 40 ans. Entretien musical inédit dans la librairie francophone. Et puis pour notre séquence 15 ans, vous entendrez le Belge Philippe Geluck pour une interview décalée et la plus absurde possible. Et voici les libraires qui vont nous accompagner tout au long de ce programme. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la Belgique, libraire dans la librairie La Licorne à Bruxelles. Merci d'être là pour cette émission d'avant Noël. Vous avez toute votre place, je vous imagine même avec des bois d'élan sur la tête ou quelque chose comme ça.
Ah, je croyais que vous alliez dire des boules de Noël aux oreilles.
Aussi,
il y a un
oui.
peu tout ça, Emmanuel.
C'est ça,
vous
oui.
connaissez de la paillette, de la paillette, de la paillette.
De la paillette, de la paillette, avec les autres aussi qui ont toute leur place. Vous avez les libraires historiques de l'émission aujourd'hui avant Noël. Bonjour Josiane Letourneau.
Bonjour Emmanuel.
De la paillette chez vous?
Ah, de la paillette tout le temps. Moi, je suis comme Déborah, pareil.
Bon, vous êtes libraire dans la librairie du Square à Montréal. Josiane, qui est géniale dans la version télé, que je vous conseille de voir rien que pour elle. C'est sur ICI RTV au Canada, mais aussi sur RTS2, RTBF La 3 et sur les 9 réseaux de TV5 Monde. Elle est aussi avec nous à la télé, la Suissesse Dominique Bressou est là. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes génial aussi à la télé.
Oh, c'est gentil.
Pour la France, il est là depuis les débuts de ce programme à la radio. On le suit de près, on l'aime beaucoup aussi. Bonjour Mathieu Colombe.
Et bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la superbe librairie Goulard à Aix-en-Provence, dans le sud de la France et ça rime. Tout va bien ?
Mais tout va très très bien, on est en train de travailler pour Noël, on est heureux, on est content de voir les gens.
Parfait, allez, on y va, on enchaîne avec de la musique et un grand, grand chanteur.
Rebelle et soumise, paupières lacées, remets ta chemise, belle fiancée. L'amour est cerise, et le temps passé, c'est parti remise, pour aller danser. La 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 la
la librairie francophone.
La 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 la.
Emmanuel Queyrade.
Et bonjour Ernest Mignon-Ernest.
Bonjour, bonjour.
Magnifique chanson, L'amour est cerise.
Splendide, c'est osé, hein. C'est très gonflé.
Très osé,
vous
ouais.
vous rappelez?
Ouais, très érotique.
Complètement, laisse-moi venir à genoux, goûter ton absinthe, goûter ouais. ton vin doux. Ou plus loin, c'est ton plaisir inonde ma bouche ravie. Je veux dire que c'était gonflé à cette époque. Vous savez, quelquefois... On a dit que c'était une réalité. Ferrat a été censuré pour des raisons politiques, et mais oui. moi je crois qu'il était pour des raisons érotiques.
Aussi, oui. ouais. Il était comment comme ami Jean Ferrat, puisque vous l'avez connu, vous venez de publier donc ce livre avec Lionel Trouillot, qu'on va rejoindre en Haïti dans un instant, mais comment était-il cet ami-là?
D'une grande simplicité, d'une grande attention, plutôt grave, mais enfin, en même temps, très attentif aux amis. Vous savez, c'est un type qui préparait des repas, ou qui choisissait les vins. Vous voyez ce que ça signifie de générosité par rapport aux amis, quoi.
Vous le faites aussi, ça. Ouais, on voilà. le fait. Moi ouais, aussi,
ouais.
je le fais.
Ouais, ouais.
Il n'y a pas que ça.
Mais moi, pas aussi bien
oui, <c'est ça. rire>
que lui. Non, non, il avait une grande attention, une grande sensibilité aux autres, quoi, vraiment.
Bon, il y en a un qui est un peu comme ça aussi. Il nous attend depuis Haïti. Bonjour Lionel Trouillot.
Bonjour.
Comment allez-vous? Que voyez-vous autour de vous d'abord, Lionel? Faites-nous voyager puisqu'on est un peu coincés là tous, chacun de notre côté.
Alors là, je vois des livres parce que je travaille, je suis membre du jury du prix des 5 continents de la francophonie.
Oui.
Et on va bientôt délibérer, donc je suis en train de jeter un dernier coup d'œil après les avoir lus et relus sur les 10 livres en compétition.
Parfait. On accompagnera d'ailleurs en 2021 le prix des 5 continents de la francophonie avec la librairie francophone qui sera très proche de ce prix. On vous en reparle début janvier. Vous publiez donc tous les deux « Tu aurais pu vivre encore un peu » paru chez Bruno Doucet. C'est une résidence artistique en Suisse, dans le canton de Genève, qui a permis cette collaboration, Ernest ?
Oui, tout à fait. Donc l'année dernière, j'ai passé quelques semaines à Port-au-Prince et j'ai rencontré souvent Lionel.
Oui.
Dans ses romans, la chanson et celle de Ferrat résonnaient quelquefois dans plusieurs de ses textes. Mais là, quand on s'est rencontrés souvent, j'ai découvert qu'il connaissait mieux l'œuvre de Ferrat que moi-même et qu'il en était très passionné. Et qu'il n'était pas le seul d'ailleurs à Port-au-Prince. Beaucoup de ses amis intellectuels connaissent Cosimon, Ferret, mais Ferrat, c'était une grande rencontre.
Oui, pour la dimension politique notamment, d'ailleurs, Ferrat.
Aussi, mais Ferrat avait un grand souci. Moi, j'ai plus souvent parlé poésie avec Ferrat que politique.
Bah alors, vous êtes à Genève, c'est ça, dans le canton de Genève, et vous avez cette résidence artistique. Vous dites à Ernest, venez, viens, on va faire un livre ensemble.
Oui, j'étais invité là, et comme c'était une résidence relativement courte, je ne peux pas faire préparer en une semaine les travaux que je fais dans les villes, comme ça. Je leur ai dit, nous avions l'idée avec Lionel Trouillot de faire un ouvrage ensemble, notre rencontre, notre amour, notre affection pour Jean Ferrat, et ils l'ont appelé. Ils lui ont proposé de venir et on a passé une semaine.
Voilà, et on a ce livre.
Et il est sorti ce livre.
Bon, Lionel Trouillot, votre éditeur dit en introduction que les textes de Jean Ferrat vivent en vous depuis toujours. Et effectivement, Ernest le dit, il y a une résonance dans votre écriture, dans votre œuvre. On décèle parfois quelques références à Ferrat. C'est la poésie ou c'est l'engagement de l'artiste qui vous captivait?
C'est les deux. Je ne pense pas qu'on puisse, quand on parle de Ferrat, qu'on puisse les séparer, dire qu'il y a la poésie d'un côté et l'engagement de l'autre. Je crois que dans son discours, il y a une façon d'être au monde qui lie. D'ailleurs, il n'invente pas cette tradition, il l'hérite un peu de poètes comme Aragon, Éluard, Neruda et d'autres, et le rêve d'un monde meilleur. Donc, tout cela est fortement lié,
c'est
un même discours, c'est une façon d'être au monde.
Ouais, vous écrivez d'ailleurs dans l'un de vos textes, c'est une grande bêtise que d'opposer une conscience sociale à la création artistique.
Je ne comprends pas cette obsession chez quelques critiques et écrivains à vouloir dire que la littérature, le grand art, ça ne peut pas se faire en posant des problèmes sociaux. Il y a tant d'œuvres qui apportent un démenti à...
Mais
cette
vrai.
Idée, Aragon, Neruda et Éluard, en fait, toute une grande tradition littéraire du XXe siècle et même XIXe, allez dire ça à Victor Hugo qu'on ne peut pas faire du grand art avec une conscience sociale, ça n'a aucun sens.
Chez Jean Ferrat, au-delà de l'engagement politique, des messages entre les lignes de ses chansons, il y a parfois de l'érotisme, on en parlait avec Ernest Pignon. Ernest, comme dans cette sublime chanson « L'amour et cerise » qu'on entendait tout à l'heure, et puis la poésie avec, évidemment, Lionel l'a dit, Aragon en tête.
Je ne sais ce qui me possède et me pousse à dire à voix haute, ni pour la pitié, ni pour l'aide, ni comme on avouerait ses fautes. Ce qui m'habite et qui m'obsède, ce qui m'habite et qui m'obsède.
La poésie, la modernité sociale aussi, Ernest Pignon-Ernest.
Comme le disait Lionel, Ferrat conjuguait ses choix esthétiques à ses choix éthiques. Mmh. À ses choix éthiques, vous voyez, je veux dire, c'était un effet indissociable. C'était même pas seulement dans son œuvre, c'était dans sa conduite, dans la vie, dans ses rapports aux autres.
Vraiment. Et il détestait les interdits aussi.
Oui, mais il a chanté, tout à fait.
Oui. Et Lionel l'écrit d'ailleurs dans le livre. Bon, il y a des libraires qui ont lu cet ouvrage, on va leur donner tout de suite la parole avant de retrouver à nouveau Lionel depuis Haïti. Avec la Belgique et la France, on va commencer tout de suite avec Déborah Damblon qui a adoré ce livre.
Oui, vraiment, j'ai adoré, j'ai adoré, parce que avec quelques mots, mais si bien choisis ou alors si bien empruntés, vous arrivez non seulement à nous parler de Jean Ferrat et à le faire revivre, mais aussi, comme lui, à nous donner envie de rester debout, d'être droit, d'être beau, d'être investi, pour que l'artiste et ses valeurs résonnent encore en nous. Et ça, c'est extraordinaire. En plus, c'est un très très bel objet, avec des illustrations magnifiques. Et puis, mais quelle bonne idée que son visage soit si rare et se perde parmi les autres, et qu'on le guette comme ça au fil des pages, et qu'on soit si heureux quand on retrouve la force et la malice de son regard.
Et oui, il y a d'autres personnages, Ernest Pignon-Ernest, que vous avez dessiné, que vous avez peint, des personnages en résonance avec Ferrat, des personnes qui l'ont influencé.
Dont j'avais parlé avec lui. J'avais beaucoup parlé avec lui de Robert Desnos, d'ailleurs.
Par exemple,
vous savez, son interprétation de Robert le Diable est un chef-d'œuvre, à propos d'Aragon.
Aragon, oui. Apollinaire, Baudelaire, Brassens aussi, Éluard.
Vian, il aimait beaucoup Boris Vian aussi.
Garcia Lorca aussi, bien sûr. La France, Mathieu Colomb, êtes-vous d'accord avec Déborah ?
Oui, totalement, totalement. C'est un très très bel ouvrage. Évidemment, les illustrations d'Ernest Pignon-Ernest sont sublimes. Le texte, quant à lui, n'a pas à rougir, puisqu'il est touchant, intime, maîtrisé. C'est une véritable réussite. Bon, alors évidemment, aimer connaître Jean Ferrat est un plus, mais si tel est le cas, foncez, c'est pour vous.
Oui, c'est un livre génial. Les textes de Lionel Trouillot sont sublimes. Lionel Trouillot, vous écrivez « Ta modernité, ta contemporanéité ne se résumait pas à un quant à soi sur fond d'ethnocentrisme et de frivolité pour beaux arrondissements. C'était un vaste monde ouvert à ta fenêtre. »
Je pense que ça, c'est important de le souligner. Quand on visite l'œuvre de Jean Ferrat, on réalise combien il était attentif aux réalités du monde. C'est dans les années 60, je crois qu'il écrit « Il vole, vole, vole les petits joueurs du football ». Alors que vous avez des gens en France qui vont s'extasier sur le football samba, il dit « Ces gamins-là, il y en a un qui essaie, il y en a un seul qui réussit ». Et on disait au début de cette émission combien Ferrat est présent pour nous, pour les intellectuels haïtiens. Mais c'est aussi parce qu'il parlait de nous. Il parlait du monde. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement, je dirais, humain. Ce n'était pas juste sa petite Europe ou les petits drames des gens les plus aisés de la société française ou des sociétés occidentales. C'était vraiment un monde ouvert à sa fenêtre.
Ah oui, un monde ouvert à sa fenêtre et un regard aussi porté sur les autres, porté sur la société, comme dans ce titre, Les jeunes imbéciles.
Ils ont troqué leur col marot contre un joli costume trois pièces. Ils ont troqué leurs idéaux contre un petit attaché caisse. Citoyens de Paris, ma ville, la plage est loin sous les pavés. Vivez en paix, dormez tranquille, le monde n'est plus à changer. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, le poil au menton.
Il y a évidemment cette critique sociale et sociologique, mais aussi un regard d'avant-garde sur le monde et notamment sur le monde du travail. Dans Le Bureau, en 1969, il évoque la déprime au travail, le travail qui peut détruire, tuer même ses employés. Et il nous alerte là, Ernest Pignon-Ernest.
Tout à fait. Il a vu venir cette espèce de déshumanisation, de cet appauvrissement culturel de la société. Il a senti venir, comme Pasolini d'ailleurs, quelquefois, je pense qu'ils ont ce regard sur le monde et du même... Voilà, ils nous alertent, ce sont des espèces de sibylles.
Oui, vous évoquez dans ce livre aussi ses inspirations avec donc les personnages dessinés dont on parlait et son goût pour la vie. Lionel Trouillot l'écrit très bien ça, les travers de la vie comme on disait, mais surtout la beauté de la vie.
Complètement. Quelquefois il résumait comme ça en disant « j'aurais voulu simplement être heureux ». Mais il disait « je ne peux pas être heureux tout seul ». Et son objectif c'était un monde heureux.
Lionel Trouillot, Jean Ferrat chante l'espoir, même si le sentiment humain est parfois douloureux. Il sublime comme ça les composantes de nos vies.
Tout à fait. Et l'espoir, la dignité et aussi cette nécessité d'être à l'autre. Moi, c'est quelque chose qui me touche dans les petites choses que j'écris. On ne veut pas être heureux seul. Ouais. Moi, c'est quelque chose de vraiment très fort. L'éternelle question, que faire de sa présence au monde ? Essayer d'être heureux et essayer d'être un peu utile afin de contribuer à ce que les autres aussi soient heureux. Je pense qu'il y a beaucoup de modestie dans cette attitude.
L'amour ponctue souvent ses chansons, amour pour la nature, pour les humains, et l'amour qui parfois nous fait perdre la raison.
Aimer à perdre aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison.
Cette chanson, l'une des plus connues de Jean Ferrat, elle a la capacité à sinon nous faire vibrer, au moins nous interpeller. Et c'est ce qu'il fait toujours Jean Ferrat, il nous interpelle. On le disait Ernest tout à l'heure, et Lionel écrit « C'est de plus en plus rare, une voix qui semonce et secousse, ose nous dire « Je ne courberai pas la tête à la fin de mes chansonnettes, je préfère vous regarder droit ».
Aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon.
Quelles que soient les chansons, Ernest Pignon, Ernest, il y a cette émotion, je vous vois très ému. Et quand on entend cette chanson, on est tous très émus. Ça marche à chaque fois.
Oui, parce qu'en même temps, il était impressionnant parce qu'il était à la fois... Moi, j'ai eu la chance de faire des concours de pétanque avec lui. Hein,
Entraigue.
En Ardèche. C'est moi qui ai hérité de ses boules de pétanque. Ah, et oui. Quand il est mort, sa femme m'a dit ça te revient. Quoi. Vous voyez, je suis très ému quand je joue avec. Ouais. Ça me bouleverse. Et en même temps, c'était une conscience. Vous voyez, il a su intervenir ou réagir à des problèmes graves de notre siècle. Mmh. Je veux dire, c'est des chansons comme Camarades. Où il dénonce l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie, c'était gonflé. Ou le bilan.
Mais
où
le
il
bilan.
Dit, où il dit positif. Quand j'entends parler de bilan positif,
et combien de millions de morts
fait le passif. Je veux dire, c'était une conscience. C'est un repère pour nous, une référence.
Un vieil homme d'Entraigues, justement, son village en Ardèche, a dit lors de sa mort « Jean, ce n'est pas un chanteur, c'est un homme qui chante ». Lionel Trouillot, vous êtes d'accord avec cette réflexion ?
Ah oui, cette phrase, elle m'a fortement touché. Ce n'est pas quelqu'un qui habitait une sorte de posture d'artiste. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus d'écrivain que de littérature, il n'y a plus d'artiste que d'art. Ferrat, c'était moi, je ne l'ai pas connu, mais à l'écouter, c'est une quête de vérité humaine profonde, je chante parce que j'essaie de partager avec vous un regard sur la réalité et le rêve de ce qu'on pourrait faire ensemble pour rendre la vie meilleure pour tous. Et je pense que cela, c'est très fort et il nous manque aujourd'hui.
Oui, ouais, c'est vrai qu'il nous manque beaucoup. Ouais.
Parce qu'en Occident, c'est la crise est encore plus grave que chez moi. Mais il nous manque un peu partout dans le monde, je crois.
Oui, avec la crise, vous dites.
Des voix.
Bon, on a une liaison très difficile avec Haïti, vous l'avez entendu. Hein. C'est un miracle, aujourd'hui, cette émission, parce qu'on est à distance, comme ça, en raison de la crise dont vous venez de parler, Lionel Trouillot, vous l'illustrez, et on l'illustre parfaitement, parce que, voilà, on est à distance, c'est compliqué. Je remercie d'ailleurs tous les moyens techniques qui sont mis en place pour nous. Bon, merci beaucoup, Lionel Trouillot. Merci, Ernest Pignon-Ernest.
Merci à vous.
Tu aurais pu vivre encore un peu, c'est le titre de l'une de ses chansons.
Absolument.
Et c'est le titre de ce livre.
En effet, on regrette qu'il soit parti. Ouais. Vraiment.
Bon, c'est chez Bruno Doucet. Merci beaucoup. À très bientôt, Ernest.
À bientôt.
Au revoir,
merci.
Lionel. Bon week-end en Haïti. À suivre, Pierre Bordage, figure de la science-fiction française, et notre séquence 15 ans avec Philippe Geluck et un entretien absurde mais plein d'humour. Ce sera après le nouveau titre de Barbara Carlotti qui chante La Corse, l'île de beauté, tout de suite dans la librairie francophone.
Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vois le campanile qu'un jour j'avais laissé. Beau matin d'avril, enfant j'étais parti, je reviens après tout pour trouver le repos, mais je suis à genoux aux cloches, taisez-vous, ne brisez pas mon rêve, cet exilé qui passe a besoin. J'aimerais encore entendre le doux chant des oiseaux et revenir ainsi, c'est retrouver en moi votre enfant du pays, dormant sous les fougères dans ce vieux cimetière, mes amis, ma famille.
C'était Barbara Carlotti avec Le Retour. Barbara qui chante magnifiquement la Corse. Et on salue tous les auditeurs corses de la librairie francophone. Pour notre séquence 15 ans, voici le Belge Philippe Geluc qui est souvent venu dans cette émission. C'est un ami à vous, Ernest, je crois.
Oui, 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 on s'est vu récemment encore à Bruxelles. Voilà, j'avais une expo à Bruxelles le mois dernier, on a dîné ensemble.
Bon, on fait tous partie de la même famille.
Il l'admire beaucoup. Il a vraiment une qualité francophone. De dessin et d'humour.
Oui, oui. Alors voici justement un moment inédit à la radio, extrait de la version télé de l'émission diffusée fin novembre, début décembre sur TV5 Monde, RTS2, RTBF La 3 et ici RTV. Il faudra venir à la télé avec nous, Ernest. Hein. Ouais, rendez-vous est pris. On s'était déjà donné rendez-vous lors de la mort de Maradona pour Jean Ferrat. Et là, je vous donne rendez-vous pour la télé. En attendant, c'est Philippe qui est à la télé. On y va. Voici une interview absurde et pleine d'humour. Vous avez suivi, j'espère.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et bonjour Philippe Geluc.
Bonjour Emmanuel Kérad.
Le chat a 20 ans et c'est le 20e album puisqu'on est en 2020.
Il n'a pas 20 ans, qu'est-ce que vous racontez? Il a 37 ans.
Non, il a 20 ans. En fait, il a 23 ans.
Mais il aime. Il aime ses lecteurs et quand on aime, on a toujours 20 ans.
Mais comme on est en 2020,
oui, j'ai
c'est
compris.
Plus intelligent en termes de communication, si vous me permettez, Philippe,
d'accord.
De dire que voilà, c'est le 20e album. D'accord. Il a 20 ans, on est en 2020. Vous voyez le...
Je vois, mais en même temps, je trouve que vous êtes un journaliste littéraire remarquable et je vous propose de me laisser faire des gags et vous-même de faire votre métier comme vous le faites.
Je vous en prie. Qui est cet Emmanuel Kérad qui est inscrit sur la couverture?
Cet album est pour mon ami Emmanuel Kérad.
Voilà.
C'est vous. C'est-à-dire que je me suis dit que commercialement, vu votre notoriété internationale, ça pouvait porter le projet.
Très bien.
J'aurais peut-être dû demander votre autorisation pour utiliser votre nom commercialement.
Ça aurait été un minimum, Philippe. Oui. En tout cas, ce n'est pas écrit à la main, je tiens à souligner, c'est imprimé comme si c'était édité. C'est une tentative de corruption, Philippe ?
Non, c'est simplement faire plaisir aux amis.
D'accord, moi je le prends comme ça. Bon, allez, on arrête les bêtises.
Oui, parce que c'est pas la vraie couverture.
Il y en a qu'un comme ça.
Eh oui.
Ça a dû coûter cher à Casterman d'ailleurs.
Mais bon, c'est de bon cœur.
Allez, plongeons dans votre album, Philippe Geluc. Le chat se pose des questions sur la vie, comme toujours, et aussi sur les masques que l'on est obligé de mettre en ce moment. On le voit avec Zorro. Zorro qui dit « Faites comme moi, portez un masque ».
Et le chat qui dit « Il a bien fait de choisir justicier, lui, plutôt que prix Nobel de médecine. » Parce qu'il le met comme un... Excusez-moi, mais même si c'est Zorro, il le met comme un con.
Hein. Oui.
Il n'est pas protégé du Covid, là.
Bon, il a un petit côté Donald Trump, un peu, hein, le chat, je trouve, parce qu'il croit au bienfait, non pas de l'eau de Javel, lui, pour éliminer le coronavirus, mais il pense que l'alcool au volant, dans ce strip, comme on dit, l'alcool au volant peut soigner vos blessures en cas d'accident.
Je vous le lis, à titre sanitaire préventif, je recommande la consommation de vodka, de gin et de whisky. Ainsi, lorsque vous prendrez la route, si par malheur vous êtes victime d'un accident, l'alcool que contiendra votre sang commencera à désinfecter les blessures en attendant l'arrivée des secours.
C'est pas vrai. Hein. Surtout, ne buvez pas quand vous conduisez.
Oh là là, vous êtes très...
Je suis très...
Oui, je vois. Non, mais évidemment, donc le chat ne dit que des conneries. Attendez, si on avait suivi toutes les recommandations du chat depuis le premier album et tout ce qu'il a dit dans les 22 albums précédents, je crois que l'humanité n'habiterait plus cette terre.
C'est clair.
Alors, si on avait encore Donald Trump pour quelques mandats.
Ah, ça c'est sûr. Il y a un dessin qui me laisse un peu perplexe, Philippe Geluc, parce que le chat, entre la télévision et la radio...
J'adore fermer les yeux quand je regarde la télé.
Il l'a choisi.
Ça me rappelle la radio.
Ouais. Il préfère la radio à la télé. Alors la librairie francophone, vous le savez, d'abord une émission de radio. Aujourd'hui, c'est aussi une émission de télé. Que faut-il préférer, Philippe ?
Elles sont pas diffusées au même moment.
Oui.
C'est ça le grand intérêt.
Oui, c'est vrai.
Et donc, fan de votre travail comme beaucoup de monde, je vous écoute en allumant la télévision.
Oui.
Mais j'ouvre les yeux, évidemment, parce que votre physique à la Georges Clounet porte votre propos.
À la Georges Clounet.
Et non, mais voilà, c'est compatible. Mais dites-moi vous profondément, est-ce que vous avez pas un petit attachement particulier à la radio?
Ah bah bien sûr, je ne vais pas mentir, évidemment.
Voilà.
Évidemment.
Je ne dis pas autre chose.
15 ans de librairie francophone à la radio, forcément feront toujours la différence.
J'aime tellement ce média, même si j'ai beaucoup pratiqué la télé, et je crois que vous êtes le même, parce que je vois dans votre œil que vous êtes, quand vous êtes à la télé, vous êtes heureux d'être avec des gens, de parler des choses qui vous passionnent.
Oui.
Moi, c'est pareil, j'ai quitté la télé volontairement, j'ai adoré faire de la télé, j'aime moins la regarder.
Ouais. Bon, le chat découvre aussi le couteau suisse.
Il se pose une question, il regarde le couteau, puis il se dit, mais qu'est-ce qui se passe?
C'est quand même un peu bizarre que dans le couteau suisse, il n'y ait aucune lame qui fasse coucou.
Oui, c'est ça.
Et c'est là qu'on voit que les Suisses n'ont pas une ligne qu'ils auraient dû suivre depuis longtemps.
Sur les couteaux, pourtant, Dieu sait si on a des couteaux suisses. Hein,
mais évidemment.
Avec plein de sortes. On va terminer avec un hommage à Tintin, Philippe Geluck. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprends pas, en fait, moi,
bon,
le dessin.
Ils sont devant des urinoirs, ils font pipi l'un à côté de l'autre, et le chat, très impoliment, tourne la tête. Il est surpris par quelque chose, maintenant à vous d'interpréter par quoi. Mais voilà, c'est ça le mystère, je ne peux
Tintin
pas...
Tintin aurait-il...
Alors, soit, ça peut être, la taille, ça peut être soit démesuré, ouais. soit ridiculement truc, ouais. ça peut être la religion, on ne sait pas.
Enfin, ah oui, d'accord.
On peut voir dans...
Vous allez loin.
Ah ouais. Ben.
Bon, en même temps, les chats, ils ont un... C'est vrai, kiki.
Un petit kiki.
Ah ben, chez les chats.
Bon, enfin, ils ont une grande gueule.
Avec toutes nos excuses, Philippe Geluck dans la librairie francophone, version télé pour son nouvel album Le chat est parmi nous, paru chez Casterman. Ça a beaucoup fait rire Ernest Pignon. Ernest qui est en plateau. La nouvelle édition avec Gérard Jugnot, Laure Adler, Reza et Léonie Bischoff est à retrouver à partir du 23 décembre sur les chaînes TV publiques, donc francophones, et sur tv5monde.com.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et bonjour Pierre Bordage.
Bonjour.
Vous êtes à distance, Pierre. Où êtes-vous? Dans quelle galaxie êtes-vous en ce moment?
Je suis dans une galaxie assez proche, finalement. Je suis au Verdon-sur-Mer, en Gironde, à la pointe de Grave, entre estuaire, océan et vignes. Donc, il y a des vins assez prestigieux dans le coin.
Bon, vous voyez la mer ou pas?
Je ne vois pas de ma maison, il faut que je fasse 10 minutes à pied pour en avoir.
D'accord. Bon, alors comme je le disais, vous êtes une référence pour la littérature de science-fiction francophone. Vous publiez un livre de contes dans la prestigieuse collection Contes des Sages. Vous abordez l'exil probable en raison des catastrophes climatiques, le transhumanisme ou encore les pandémies. Mais ce qui marque ces nouvelles, c'est la répétition des erreurs. Les humains ne tirent jamais les leçons du passé?
Non, il ne les tire que très rarement si ça arrive. Mais quand on voit les dernières années, enfin les derniers siècles, on s'aperçoit que l'homme n'a absolument pas tenu compte de son développement technologique et qu'il va bientôt en payer les conséquences dans le réchauffement et dans tout un tas d'autres conséquences. Donc l'auteur de science-fiction là, se place en avertisseur pour dire ben, si on va dans cette direction-là, il risque d'arriver ce qui nous pend au nez.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est ce que vous faites d'ailleurs.
La science-fiction a une valeur, enfin, est un outil formidable pour explorer le présent. Les problèmes en germe dans le présent.
On dirait que pour vous, la frontière est ténue entre l'homme, l'animal et les robots. Dans vos récits, on va dire que c'est logique, hein, puisqu'en science-fiction, c'est banal ça. Mais est-ce que vous avez fini par y croire, vous?
Oui, il y a de l'animal en nous, il y a du robot en nous. Je ne sais pas s'il y a d'humain ou de l'animal dans le robot. Et je ne sais pas s'il y a du robot dans l'animal, d'humain dans l'animal. Mais c'est certain que l'être humain, c'est... concentre en lui tout un tas de formes d'intelligence, dont un cerveau animal, dont un cerveau calculateur qui pourrait être assimilé de la robotique. Donc, c'est toujours après les définitions. Enfin, je pense que je me pose beaucoup la question de savoir ce que c'est qu'un être humain en réalité. Qu'est-ce qui définit l'être humain par rapport à la machine, par rapport à l'animal?
Mais vous pourriez vivre.
Sa spécificité.
Vous pourriez vivre avec un robot à côté de vous, par exemple? Cohabiter avec un robot?
Oui, pourquoi pas, si c'est pour des raisons pratiques.
Ouais.
On le fait quasiment avec son téléphone portable, avec ses ordinateurs, avec on cohabite en permanence avec les box diverses et variées, on cohabite sans arrêt avec l'intelligence artificielle, donc on est confronté à l'intelligence artificielle en permanence. Dans sa voiture, on a de l'intelligence artificielle partout, quand on prend les transports, donc on est obligé de se confronter à l'informatique, et je pense qu'effectivement la dernière étape, c'est d'avoir un robot de compagnie, comme ça se passe déjà au Japon d'ailleurs,
ouais,
où ils sont très en avance sur la robotique par rapport à nous.
Vous abordez aussi la question du clonage ou de la manipulation génétique et évidemment les dérives possibles. On pourra peut-être un jour commander un enfant et déceler des défauts de fabrication. Là, dans votre histoire, les parents se retournent contre le fabricant. Que va-t-on faire des enfants défectueux, Pierre Bordage? C'est ça la question.
Ben, ouais, ça c'est une question assez épouvantable.
En cette veille de Noël, ou presque.
Ouais. c'était ça l'idée, c'est que l'enfant part... le biais de la biotechnologie devient une marchandise. Et qu'est-ce qu'on fait des marchandises défectueuses? On les retourne. Et qu'est-ce qu'on fait le magasin auquel on retourne la marchandise défectueuse? Soit il la détruit, soit il la répare, soit je ne sais pas ce qu'il fait encore. Mais oui, ça pose une question très très douloureuse, quoi, de savoir ce qu'on d'ailleurs de faire de l'enfant une marchandise, c'est-à-dire de ne pas l'accepter dès qu'il y a le moindre signe d'anomalie ou de dysfonctionnement. Ouais. Et donc, ouais, ça risque de faire quelque chose d'assez terrible, quoi.
Alors, si tu es un enfant et que tu nous écoutes, sache que tes parents peuvent t'abandonner si tu as un petit défaut physique. Et comme on a tous au moins un défaut, méfie-toi. Voilà, joyeux Noël, les enfants. On pourrait dire ça aujourd'hui,
c'est ça.
Pierre.
Bah,
je plaisante, hein. Je plaisante, les pauvres. Non, je plaisante, c'est pas vrai.
Aurait pu dire la mauvaise fée génétique, d'ailleurs.
Aurait pu dire dans la mauvaise fée génétique. Voilà, qui est dans votre recueil de contes. Bon, elles ont peut-être des petits défauts physiques. Ce sont nos libraires, Pierre Bordage. Il y en a deux qui ont lu votre livre. Avec le Canada et la Suisse, on va commencer avec Josiane Letourneau. Tiens.
En fait, je trouve que ce livre nous fait comprendre de façon ultra limpide que la science-fiction nous parle d'abord et avant tout, au-delà de ses fabrications, de notre monde et de notre humanité, dont la puissance bien factice nous est d'ailleurs démontrée sans détour dans plusieurs de ses histoires. Je trouve que c'est un recueil chargé de sens et le message qui nous y est destiné passe bien au-delà des mondes.
Bien. Dominique Bressou, votre avis en Suisse?
Oui, je suis d'accord avec Josiane. Déjà, la couverture et le format de ce livre, c'est magnifique. Ça se glisse dans une grande poche ou dans un sac à main et c'est ça qu'il faut faire. C'est le garder sur soi et en lire un conte de temps à autre. Mais même si c'est pour s'évader, on se rend compte qu'on vit déjà ou presque dans les mondes décrits. En fait, plusieurs de ces contes ont clairement valeur d'avertissement et les réflexions qu'ils engendrent pourront peut-être atteindre les bonnes oreilles, qui sait.
Voilà, petit problème de liaison, hein, désolé, avec la Suisse aussi, avec Dominique, avec sans doute le Père Noël et les rennes qui sont sur la neige et qui font de la friture sur la ligne. Pierre Bordage, dans Le Mutant à la Bouche d'Or, il y a un adolescent qui va délivrer un message de paix et d'harmonie avec la nature. Vous écrivez, oui. Et il dit donc, nous formons un tout avec notre monde. Notre monde s'exprime par les sifflements du vent, par les frissonnements des frondaisons, par les fredonnements des sources, par les craquements de la terre, par les cris des animaux, par les bourdonnements des insectes, par les grondements de l'orage, par les crépitements de la pluie. Notre monde nous ouvrira ses richesses si nous le laissons nous parler. Il refermera la porte de ses ressources si nous ne le respectons pas.
Oui, tout est dit. Je n'aime pas la conscience ultra-écologique de mon personnage, je pense, hélas.
Ah oui.
j'essaie de faire comme tout le monde, faire de mon mieux, mais lui, il ressent vraiment les choses, il ressent vraiment le monde qui lui parle. Je pense qu'on l'a un peu perdu parce que notre progrès, le matérialisme qui gouverne notre monde a fait que nous sommes éloignés de nos sources en réalité.
Ouais. Et votre personnage, en fait, il conseille de s'enlever toute idée de possession, car notre monde ne nous appartient pas. C'est ce que vous dites aussi, ça. L'idée
oui,
ça, de possession.
Oui, j'ai repris aux Indiens d'Amérique, ça. Vous savez, oui. Le chef Joseph, je crois, d'Aîné Percé, disait. Mais comment est-ce que les nouveaux arrivants peuvent considérer que l'herbe leur appartient, l'air leur appartient, l'eau leur appartient? Pour eux, c'était complètement insensé, inconcevable. Donc, c'est retrouver ça, retrouver le fait que notre monde est, si nous sommes en harmonie avec notre monde, eh bien, tout ça, ça appartient à tout et à chacun.
Ouais. Vous pensez, Pierre Bordage, comme vous l'écrivez d'ailleurs, que le monde n'a pas besoin de règles, ni de gouvernance, mais d'harmonie et d'équilibre?
Oui, c'est-à-dire que on a une gouvernance, on a des règles, on a un droit et tout ça parce que on n'est pas capable de se gérer soi-même. Et qu'il nous faut des cadres pour qu'on puisse vivre à peu près ensemble. Mais je pense que c'est par défaut qu'on a tout ça. Oui.
Ouais. Dans un conte qui prend la forme d'un poème, vous semblez justifier et accepter les pandémies. Vous laissez entendre que rien ne sert d'essayer de changer le cours des choses. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Vous faites allusion peut-être à la fable sur la personne qu'on voit dans le passé pour...
Oui, c'est ça. Sauver un personnage qui a été victime d'une pandémie, personnage.
Ça va loin parce qu'on essaie de refaire complètement les choses en partant dans le passé, c'est-à-dire au moment de l'arrivée de la pandémie, on tue le premier porteur de la pandémie, en fait. Mais on ne maîtrise pas ça, on ne maîtrise pas le temps. Je pense que vouloir maîtriser le temps, c'est jouer les Prométhées, quoi. C'est-à-dire... C'est s'attirer les foudres de je ne sais pas qui, mais c'est probablement mettre en jeu des forces qui vont nous dépasser très rapidement.
Mais alors ça veut dire quoi? Qu'il faut laisser faire les pandémies? Que c'est...
Non, je ne dis pas qu'il faut les laisser faire, il faut les soigner, mais dans le présent. C'est pas c'est de refaire ce qui s'est fait à un moment, qui s'est fait pour telle et telle raison. C'est pas essayer de détricoter toute la trame qui a conduit à ça, c'est d'essayer de parer dans le présent à ce qui a... à la pandémie.
Bon, alors, je vous rassure, on ne peut pas aller dans le passé. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi.
Pour l'instant, c'est vrai.
Ni dans le futur, ni dans le passé. Hein.
C'est vrai, non. Pour l'instant.
Uniquement dans vos livres et dans les films. Bon, merci beaucoup, Pierre Bordage. Merci.
Je vous en prie. Merci à vous.
Contes des sages d'autres mondes et d'autres temps est paru aux éditions du Seuil. Un petit livre illustré à la couverture argentée. Un joli petit cadeau de Noël. Merci pour cette interview à distance. Dans un instant, les coups de gueule et coups de cœur des libraires et un entretien inédit dans cette émission avec Cassave. Cassave qui fête ses 40 ans avec 4 CD, DVD qui sortent pour ses fêtes. Voici un extrait de leur concert et une chanson que vous allez tous reconnaître. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Até que já me comprou que moi j'ai que livre. En le temps passé, eu seria ou pas même changé.
M'en va déjà si posé, m'en va que li pas ne va. Ou tu même oublié, ça m'en te carine gauche.
Cassave avec Collet Serré en version concert à la Défense Arena pour le 40e anniversaire du groupe. Un groupe qui a inspiré le monde entier et l'Afrique en particulier. On retrouve Jocelyne Berroir et Jacob Desvarieux dans 3 minutes.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Mais avant la chronique des libraires, avec les coups de gueule et les coups de cœur, un coup de gueule en Suisse, Dominique Bressou, très agacé, Dominique.
Très, très, très agacé, carrément fâché. Alors, vous savez qu'il y a, à l'approche de Noël, une demande accrue de beaux livres, ce qui fait plaisir. Mais là où vraiment certains éditeurs dépassent les bornes, c'est en réservant l'exclusivité de leurs livres à une chaîne de librairies bien connue en Suisse qui s'appelle Payot. Mmh. Non content de refuser la vente aux librairies indépendantes, ils vous expliquent froidement que pour eux, c'est plus rentable de réserver leurs livres à une chaîne.
Mais oui.
Qui a déjà des pratiques, moi, pour moi, assez proches de la concurrence déloyale.
Eh oui, c'est désastreux, c'est honteux. Ça vous a grillé Noël, ça?
Oh non, pas complètement, non. Mais ça m'a grillé les nerfs. Ouais.
Oui, ça a grillé les nerfs. Bon, merci Dominique. Un coup de cœur en Belgique, Déborah Damblon?
Mais oui, Emmanuel, vous vous souvenez la saison passée, comme on avait aimé le rêve d'un fou
qui parlait du palais idéal du facteur cheval, vous
oui.
vous souvenez ?
Oui, Nadine Monfils.
Mais oui, exactement. Eh bien, elle vient de sortir un nouveau livre, exactement dans la même veine, qui va nous toucher droit au cœur. Et donc, ce livre s'intitule « Le souffleur de nuages » et c'est la délicieuse et improbable histoire d'un chauffeur de taxi et d'une vieille dame qui décident de vivre leur rêve. Et ça rend tellement, tellement heureux. Et par les temps qui courent, rêver et être heureux, ça n'a pas de prix.
C'est important. Et le souffleur de nuages chez Fleuve Édition. Merci beaucoup, Déborah. Josiane Letourneau, un coup de cœur ou un coup de gueule au Canada ?
Ah ben moi, c'est un coup de gueule parce qu'on vient de nous annoncer que les commerces non essentiels, définis comme non essentiels, seront fermés du 25 décembre au 10 janvier. Ce qui veut dire beaucoup de gestion pour les librairies en ce moment, en ces temps d'achat effrénés, mais particulièrement pour un libraire de petite surface qui a pignon sur rue et qui a une limite de clients selon sa superficie. Vous imaginez le portrait? Alors, pour limiter les irritants, c'est le bon moment de rappeler que vous pouvez réserver vos livres en mode cueillette pour les librairies indépendantes sur leslibraires.ca. Ça permet de régler les achats en librairie ou en ligne, tout est possible, et d'avoir votre commande toute prête à ramasser au moment de la visite, comme quoi, dans une situation pas simple, il faut trouver des allègements.
Oui, il faut en trouver parce qu'il y a un nouveau confinement au Canada à partir effectivement du 25 décembre avec les magasins qui ferment, les magasins non essentiels, dits non essentiels. Merci et bon courage, Josiane. On termine avec un coup de cœur en France, Mathieu Colombe. Là, c'est le déconfinement, les librairies sont ouvertes en France.
Oui, et du coup, on va fêter ça avec un peu de tendresse dans ce monde de brutes. Parce qu'on va parler de Lou Sonata. Alors Lou Sonata, c'est un nouveau cycle fait par Julien Nel de son personnage emblématique qui s'appelle Lou, qui est une petite fille qu'on a vu grandir pendant donc le premier cycle. Là maintenant, donc ça devient une grande jeune fille qui s'installe dans son propre appartement et donc il s'y passe beaucoup de choses. Il y a un trait magnifique qui est très solaire, qui est parfaitement lumineux et qui est complètement attendrissant. Et il se passe des choses dans la vie de cette jeune fille qui sont souvent très symboliques. Et en gros, on apprend des choses sur soi-même et de comment on a vécu certains passages de notre vie, ou même on peut montrer ça, on peut faire ça à nos enfants et leur piquer discrètement quand ils ne regardent pas.
Donc vous lisez en ce moment des bandes dessinées pour adolescentes, Mathieu Colombe, c'est bien ça ?
Oui, oui, j'ai besoin de tendresse, oui, j'avoue.
Ça m'étonne de vous, hein.
C'est Noël.
C'est dans la collection Cho, c'est parrainé un petit peu par Zep ou pas ?
Pas vraiment à ma connaissance, mais en tous les cas, ça rentre complètement dans la ligne de la collection. Bon. Mais je pense que Zep a dû aimer.
Bon, Lou, donc, aux éditions Glénat. Je vous souhaite un joyeux Noël, jeune fille. À bientôt, Mathieu.
Moi aussi, Emmanuel. À bientôt.
Voici un entretien avec Kassav en cette fin d'année pour clore la célébration de leurs 40 ans de carrière. Kassav. Oula, oula.
Des îles. Viens, je te love, viens, je te love, viens, je te love. Partir très loin, viens d'en prendre soin. Viens, je te love, viens, je te love, viens, je te love.
Et il y a toujours eu un pont, on le disait tout à l'heure, entre Kassav et l'Afrique. Vous avez même fêté vos 30 ans de carrière en Côte d'Ivoire, notamment. Il y a un public incroyable là-bas.
La Côte d'Ivoire, en fait, c'était le premier pays qui nous a accueillis. On croyait, parce que bon, il y avait un directeur artistique ici à FR3, à l'époque d'FR3, qui nous avait dit, ouais, Kassav n'est pas connu en Afrique et tout. Et on était invités à jouer à Abidjan et ça a été vraiment la grosse surprise avec des stades à 25 000 personnes et des trucs comme ça. Enfin,
Mais c'est vrai que cette influence africaine, elle a aussi déterminé votre volonté d'affirmer une musique d'identité antillaise. Vous dites qu'à vos débuts, vous constatiez qu'il y avait des musiciens haïtiens, des musiciens africains qui inondaient comme ça les musiques, les Antilles de leur musique. Et vous avez dit, il va falloir qu'on trouve quelque chose, quoi.
Ben, on a fait comme tous les groupes ont fait, les groupes anglais, les groupes américains, on dit, voilà la musique qu'il y a chez nous, et on veut l'imposer dans le monde entier. Alors pour nous, ça faisait beaucoup plus mégalo, parce qu'on vient de quelques petites îles.
Avec 450 000 habitants.
Voilà, et la plupart des villes où on a joué en Afrique, par exemple, 450 000 habitants, c'est un quartier, et encore.
Non, c'est un coin.
Ouais, c'est un coin, quoi. Il y a un quartier à Abidjan, par exemple, la première ville où on a joué, c'est un quartier, enfin, oui, c'est un quartier, ça s'appelle Yopougon. Là-bas, il y avait 1 million d'habitants à l'époque.
Yopougon, c'est incroyable. Ouais.
Voilà, 1 million d'habitants, et c'est un quartier d'Abidjan, quoi. C'est même pas, c'est pas une ville, quoi.
Mais faire de la musique antillaise, ça a été une forme d'engagement aussi. On peut faire ce constat après 40 ans, Jocelyne Berroir.
Oui, complètement, parce que je crois que l'histoire, en fait, notre histoire, on a toujours été un petit peu éduqués pour devenir de bons petits Français, quoi, c'est ça. Et le problème, c'est qu'on avait, on vient d'une culture, enfin, d'une histoire qui est complètement différente de celle de l'Hexagone, avec une musique et une culture qui sont fortes. Il était nécessaire d'arriver face à l'autre en lui disant mais voilà qui je suis. Donc eh oui. Et moi je pense que la musique est un beau vecteur quoi.
Et on
voilà.
a essayé de vous faire chanter en français d'ailleurs.
Ben oui, on nous a souvent dit on comprend pas le créole, machin, où allez-vous avec cette langue-là, machin, eh oui. Nina, alors que c'est la langue qui correspond à notre à notre musique parfaitement quoi.
Bon, en tout cas, vous avez toujours eu le soutien de la communauté antillaise. Quels que soient d'ailleurs les goûts musicaux, presque tous les Antillais vous aiment bien. Même s'ils ont des réserves sur votre musique, il y a une affection toute particulière.
Bah, c'est-à-dire que aller à un concert de Kassav ou acheter un disque de Kassav, c'est devenu pratiquement un acte militant. Quoi. Parce qu'on défend notre point de vue, on défend notre culture, on défend ce qui est à nous, et puis on défend notre langue maternelle. Je pense que quelqu'un qui est breton, ou qui parle breton en tout cas, si on lui marche sur le pied, le premier truc qui va venir, c'est en breton. Après, il va se rappeler que la personne en face ne comprend peut-être pas, il va l'insulter dans une autre langue. Mais voilà. Et pour chanter, c'est pareil, quand on chante dans la langue maternelle, dans la langue où on s'exprime le mieux, quoi.
Why?
Kassav fête ses 40 ans avec cette musique remixée par Bob Sinclair. On est dans un club à Ibiza, Jacob Desvarieux.
Ben oui, d'ailleurs c'est cette musique-là qui avait servi pour le 14 juillet. Ouais. Alors, je ne sais plus en quelle année, nous on joue à Toronto, on me dit « Ouais, ils sont en train de passer votre musique ». Et ça passait en fait, ça passait dans tous les journaux du monde. Ils disent « Voilà, le 14 juillet, voilà ce qui se passe en France
». On n'a qu'une envie, c'est de continuer à l'écouter en fait.
Ah ben oui.
Hein, c'est incroyable. La ville avec qui j'en se fait pomper sa tchambé. Le zouk est notre seul médicament. C'est ce que vous chantiez déjà dans la version originale en 1984. Qui dit médicament dit remède. Remède à quoi, Jocelyne Berroir?
À la mélancolie. Oui, moi je crois que c'est ça. Le zouk, en fait, beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'on raconte. On raconte pas uniquement que des choses, il fait beau, le soleil, les femmes, les jeunes. Non, c'est pas ça. On parle d'un tas de choses. On parle de choses douloureuses aussi. On parle de la mort, on parle de l'histoire, etc. Mais cette musique a quand même des sonorités qui sont gaies et qui vous donnent envie de vous lever et peut-être de danser et oublier pendant 5 minutes, 4 minutes, les soucis que vous avez. Voilà.
Alors le zouk est devenu au fil des années un rythme, un style qui inspire d'ailleurs les autres artistes. Au fil des années, comme ça, certains l'ont adapté à la langue française, notamment Jacob Desvarieux.
Oui, à la langue française. Il y a même eu des musiciens, des artistes que franchement, j'aurais jamais pu imaginer un truc pareil. Quoi.
Par exemple
Entendre Miles Davis en train de dire qu'il a entendu un truc là, qui s'appelle Kassav. Ouais, ils font une musique assez intéressante. Quoi.
Ouais, il a parlé de vous dans un livre, Miles Davis.
Et il envoie ça à Marcus Miller en lui disant « Fais-moi un truc dans ce genre-là.
Ouais. »
wow.
Oui, il y a eu aussi des zouks. Comme dernièrement, je suis tombée sur un zouk chinois. Et il y a eu un groupe au Japon qui a duré plus d'une dizaine d'années à faire un zouk très inspiré par Kassav, parce que j'ai écouté quelquefois, on entend bien les cuivres, ça sonne un peu Kassav, etc. Ils ont fait un zouk à leur manière, mais c'était un zouk japonais, ça s'appelait couche-couche. Pas couscous, mais couche-couche.
Voilà. Et vous avez été plagié en Espagne aussi.
En Amérique du Sud,
surtout en Amérique du Sud. Plein de titres comme ça, ce qui fait qu'un jour, vous avez réagi en 1998, vous sortez un album en espagnol.
Oui, mais bon, ça c'était autre chose. Hein. Ça c'était une commande, c'est pas notre réaction. Ça c'était une demande de la maison de disques, parce qu'il fonctionne avec les modes. La salsa, paraît-il, était à la mode en France. Moi, j'ai dit, c'est quand même un peu dur de dire aux gens que leur musique est à la mode. La salsa existe depuis plus de 50 ans et c'est à la mode pour les gens qui la consomment régulièrement, quoi. Bref. Donc, ils nous ont réclamé un album salsa. On est partis à Cuba. Ça nous a beaucoup amusé, en fait. On a fait des versions salsa de nos trucs. Mais c'était pas par réaction.
Bon, il y a plein de titres, sur cet album des 40 ans. Ouais. Et il y a des pépites sur cet album, Jacob Desvarieux. Ça a été compliqué, non?
Il y a pratiquement que ça. Il y en a qu'on n'a pas mis, alors imagine.
Ouais. Ça sera pour les 50 ans.
Voilà, avec les progrès de la technologie, on pourra peut-être même faire des 40 ans.
Bon, allez, on se donnera rendez-vous ici. Voilà. Je promets qu'on le fera. Promis. Voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Le double CD et double DVD de Kassav vient de sortir dans un coffret 4 disques chez Wagram. Chaque semaine depuis octobre, nous donnons la parole aux bibliothécaires, quelque part dans la francophonie. Aujourd'hui, c'est la France qui est à l'honneur. On vous emmène à Boulogne, à côté de Paris. Bonjour Colline Lafont.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes bibliothécaire à la médiathèque Landowski à Boulogne-Billancourt. Que voyez-vous, que peut-on voir par l'une des fenêtres de la bibliothèque? Faites-nous voyager un peu, Colline.
Alors depuis ma fenêtre, je vois quelques immeubles et puis le centre commercial de Boulogne qui est décoré pour les fêtes et puis les gens en train de faire leurs courses.
Voilà, c'est la fête, c'est les paillettes comme on disait en début d'émission,
exactement.
C'est ça? Bon, quel grand classique de la littérature avez-vous choisi alors?
Alors j'ai choisi un conte champêtre du 19e siècle qui nous emmène au cœur de la campagne berrichonne. Il s'agit de La Petite Fadette de George Sand qui fut publiée pour la première fois en 1849.
Oui.
Alors La Petite Fadette, c'est une jeune femme vraiment fascinante et qui doit d'ailleurs beaucoup à son auteur et qui va venir semer la zizanie entre deux frères jumeaux quand l'un des deux, Landry, tombe amoureux de La Petite Fadette et s'éloigne peu à peu de son frère. Moi je l'ai lu toute jeune, je pense que j'avais 10-12 ans et j'en garde le souvenir d'une scène de bal vraiment mémorable où La Petite Fadette danse toute heureuse dans les bras de Landry alors que tous les jeunes du village se moquent d'elle. Et elle a beau être la meilleure danseuse, c'est sa réputation de sorcière qui lui colle à la peau. Mmh. Et c'est tout le problème de La Petite Fadette, en fait, d'échapper à cette étiquette qu'on lui a collée, d'exister pour elle-même. Et je trouvais que c'était vraiment formidable de lire ça à l'adolescence, à l'âge où on se cherche énormément. Parce que c'est un roman d'apprentissage qui se lit avec facilité, mais aussi un beau portrait de femme, toute sorcière qu'elle est.
Parfait. Et puis, on peut le trouver en poche. Vous l'avez en poche dans la bibliothèque, vous ?
Absolument, devant moi d'ailleurs, je vais aller le remettre en rayon.
C'est parfait. À offrir donc pour Noël, La Petite Fadette de George Sand, livre de 1849. Merci beaucoup Colline Lafont.
Avec plaisir.
Merci à la médiathèque Landowski de Boulogne-Billancourt, où on écoute aussi la librairie francophone, j'espère.
Ah bah bien entendu, il y a des gros fans, dont Marie notamment, une collègue.
Parfait, vous la saluerez de notre part et avec on vous souhaite de très joyeuses fêtes. À bientôt Colline.
Merci. Au revoir.
Au revoir. On termine avec une musique populaire quelque part dans le monde, dans un pays membre de l'OIF. Voici Tsanka Uraganu avec un titre phare en ce moment en Roumanie. Un extrait de Manca Ti As Hazu de Tsanka Uraganu, grand succès en Roumanie. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Cyril Pascal, avec Pierre Fossillon à la technique, à la rédaction, Jean-Philippe Verret, avec Christophe Magère et Estelle Gap en France, Jean-Marie Félix et Sophie Grécoutchou en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet, Elsa Pépin au Canada, Thierry Dupin était à la prog musicale. La semaine prochaine, une spéciale 15 ans en deux parties à suivre pendant la période des fêtes et un portrait atypique de Joseph Kessel avec l'auteur Gilles Heuret et l'académie Jean-Christophe Ruffin à l'occasion de l'entrée de Kessel dans la Pléiade. Merci pour votre fidélité, bon week-end à tous. Je vous souhaite de passer le meilleur Noël possible ou en tout cas des moments joyeux et apaisants où que vous soyez et quelles que soient vos croyances. Une pensée affectueuse aussi pour tous les enfants qui ont des étoiles dans les yeux en cette période de Noël. À bientôt, salut.